Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au jeudi 11 juillet 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que nous amorçons déjà cette émission Club de la Presse. Et c'est bien sûr le quatrième numéro pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Vitogbe Koku Tomega est à la mise en onde. Jérôme Akoucha sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabin. Vous pouvez nous suivre également partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité et l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités, bien sûr. Confrères journalistes en studio, c'est Ambroise Kmondjo. Ambroise, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Canal FM. Si tu le permets, j'aimerais profiter des antennes de Canal FM pour attirer l'attention des autorités du ministère des Affaires étrangères sur une situation qui se produit au Maroc. Les Togolais qui résident au Maroc et qui ont besoin que leur conjointe ou leur fiancé les rejoigne au Maroc et qui veulent se marier au Maroc, au niveau de l'ambassade, n'ont pas de registre. Et cette question de registre nous a été posée à plusieurs reprises. C'est-à-dire que vous vous mariez, vous êtes Togolais résident dans un pays, vous voulez vous mariez conformément aux règles de la République togolaise, notamment tout comme à l'état civil, ici comme ça se fait au niveau des mairies. Oui. Donc, quand vous voulez marier, c'est au niveau de l'ambassade que vous le faites, mais il va falloir avoir un registre communal, un registre signé du Togo, qui a le sceau du Togo, soit qui vient d'une commune ou qui vient du ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas concrètement le protocole, mais il n'y a pas de registre au niveau de l'ambassade du Maroc pour permettre aux Togolais de se marier. Parce que vous vous mariez, vous avez besoin de papiers peut-être pour encore évoluer sous d'autres territoires à l'étranger. Mais ils n'en ont pas depuis plusieurs mois, pratiquement plus de 8 mois. Et cette alerte nous est parvenue à plusieurs reprises. Donc moi, j'ai voulu juste attirer l'attention de l'autorité qui est compétente en la matière pour que nos frères et sœurs qui résident au Maroc et peut-être qui ont eu une bourse, qui ont continué les études et qui ont peut-être trouvé un boulot, veulent se marier, ils n'ont pas de registre pour pouvoir consacrer leur mariage à travers un cadre juridique. Donc c'est cet appel que je fais à qui de droit.
Merci beaucoup Ambroise pour cette interpellation ou cet appel lancé. Je pense que le message est passé. Alors nous avons un invité, c'est Dr Kodjovi Obenton. Docteur, bonjour.
Bonjour Pascal, et bonjour Ambroise, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio. Bonjour à tous les hommes politiques de notre nation, bonjour à la jeunesse togolaise, à la femme togolaise et au monsieur togolais.
Vous êtes jeune et vous êtes homme politique. Vous êtes le président du parti politique Nouvelle Vision et nous allons discuter. Hein. Nous avons invité alors ce jeudi alors pour discuter de l'actualité. Actualité, vous le savez très bien, l'actualité est marquée par cette nouvelle constitution et aussi la 5e République bien sûr. Et au-delà de cela, il y a d'autres choses également, hein, telles que ce classement, j'allais dire, du Togo par rapport à ce qui concerne l'indice alors de développement humain. Nous allons en parler et nous ferons aussi un tour dans la sous-région pour parler alors de la CDAO avec l'AES, la CDAO qui est totalement en difficulté aujourd'hui, compte tenu également alors de ce retrait de ces pays alors de l'AES. Aujourd'hui, c'est confirmé, c'est plutôt une confédération puisqu'il y a eu un sommet des pays alors de l'AES tout récemment qui a créé plutôt une confédération. Nous allons faire en quelque sorte le décryptage alors de toutes ces actualités. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est notre plaisir et la Nouvelle Vision par ma voix portera sa vue au peuple togolais sur ces différentes situations.
D'accord. D'abord, pour ce qui concerne surtout votre parti politique, Nouvelle Vision, comment vous vous définissez?
Comme le mot l'indique, la nouvelle vision, c'est la vision qui s'oriente à créer un Togo soudé, un Togo émergé, un Togo qui permet à chaque citoyen de vivre sur un territoire qui lui inspire confiance et sécurité et qui permet à sa jeunesse de non seulement rêver, mais d'avoir les garanties et les paramètres qui vont leur permettre de réaliser leurs rêves. Donc, la nouvelle vision, c'est ça, et c'est ce que nous poursuivons tous les jours.
La nouvelle vision, c'est ça, et c'est ce que vous poursuivez alors tous les jours. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous impactez les Togolais?
Ce n'est pas une impression, c'est un fait. Il suffit de demander ceux qui sont impactés, ils vont vous dire comment la nouvelle vision impacte leur vie. Et ne serait-ce que voir la portion du peuple togolais aujourd'hui qui a retrouvé de l'espoir en la connaissance de la nouvelle vision, ne serait-ce que de voir la vague de Togolais du domaine culturel qui bénéficie des opportunités de la nouvelle vision, de voir des enseignants, des hommes de médias et autres personnes qui bénéficient au fait des conseils, des orientations, des actions de la nouvelle vision, sans oublier même les agriculteurs un peu partout qui, au-delà de nos actions politiques, bénéficient de nos actions sociales. Et je suis certain qu'ils vous diront qu'ils sont impactés parce que déjà, ils ont retrouvé l'espoir en la connaissance de cette nouvelle vision.
Et docteur, je pose la question par rapport à votre cote de popularité parce que aujourd'hui, c'est vrai, vous marquez, vous avez des projets. Et je me souviens même d'ailleurs de ce projet d'entrepreneuriat que vous avez entrepris entre-temps à l'égard des jeunes et aussi des artistes. Vous accompagnez beaucoup d'artistes alors togolais. Mais finalement, j'espère que vous avez été même d'ailleurs aux législatives du 29 avril dernier. Maintenant, pour ce qui concerne l'adhésion de la population à tous ces projets, par rapport même d'ailleurs, puisque vous êtes aussi un parti politique, il est très important quand même que vous soyez soit alors dans des sphères de décision, mais finalement, on ne vous retrouve pas.
Oui, certainement que au niveau des résultats, palpables sur le terrain, c'est-à-dire si on s'est engagé pour les régionales et les législatives, nous avons eu 0 députés et 0 conseillers. Néanmoins, on ne voit pas seulement le résultat du côté quantitatif. Il y a également le côté qualitatif que nous devons considérer. Ça donne un peu plus de, ça a plus de valeur pour nous à la nouvelle vision parce que nous disons un peuple qui a été sous le joug de la misère, de la confusion politique pour plus de 30 ans, ce n'est pas 2 semaines de campagne qui va défoncer la conscience de ces jeunes. Néanmoins, quand vous arrivez à échanger avec ceux qui ont pris connaissance de la nouvelle vision, je vous rassure que vous serez sidérés de voir combien cette nouvelle génération retrouve l'espoir, enfin, d'un parti qui n'a pas pour finalité de justement faire une lutte politique-politicienne, mais qui, à travers la politique, ou bien qui prend la politique comme un outil afin de trouver solution aux problèmes socio-économiques que nous avons pour la construction du Togo que nous voulons construire. Donc, les 2 semaines de campagne nous ont permis, d'un côté, de pouvoir faire savoir, faire connaître la vision que nous avons. Nouvelle vision avant la campagne, nouvelle
vision. Justement, c'est quoi cette vision?
J'ai défini cette vision, mais je peux répéter. C'est cette vision qui donne à tout Togolais cet espoir de savoir que sur notre territoire togolais, nous pourrons être des avis différents, mais toujours avoir pour finalité de construire un pays qui nous permet chacun de vivre, c'est surtout ceux qui ne sont pas des paresseux, ont voulu, s'engagent à développer et de pouvoir créer ce référentiel qui donne cette opportunité à cette jeunesse de pouvoir s'en sortir. Parce que quand on parle d'implication politique, c'est la finalité de cette implication, c'est ça qui est plus important pour nous. Parce que, d'abord, ceux qui nous ont connus depuis des années immémoriales, ils sauront que tout au début, nous sommes une Togolese Foundation. Arrivé un moment, après les limites que nous ont imposées, la nature de notre institution, nous avons opté pour un mouvement. Et enfin, suite à certains événements, nous sommes parti politique. Et nous sommes parti politique, c'est que l'objectif, la finalité n'a pas changé. C'est toujours cette construction d'un vie meilleure pour les Togolais. Et c'est pourquoi la nouvelle vision, on dit toujours que lorsque la finalité est atteinte, la nouvelle vision n'existera plus. Parce que c'est un tremplin, c'est un outil qui permet de construire ce Togo soudé et ce Togo émergé. Et tant que l'opportunité est ouverte, l'opportunité est offerte pour que la nouvelle vision puisse s'impliquer et puisse contribuer à cette du Togo soudé et Togo émergé, vous nous verrez sur le terrain.
D'accord. C'est vrai que vous avez parlé de votre participation aux législatives alors du 29 avril tout de suite. Et vous l'avez si bien dit, les résultats n'ont pas été bons puisque vous n'avez pas de députés au niveau même d'ailleurs de l'Assemblée nationale et aussi même d'ailleurs les conseillers régionaux. Vous n'en avez pas aussi. Alors finalement, on sait aussi que l'enjeu est en quelque sorte crucial de ces élections. C'est aussi ces élections nous ont basculé dans une cinquième république avec la nouvelle constitution. Comment vous avez accueilli alors cette nouvelle constitution?
Nous avons fait deux lectures de ce changement. La première lecture, c'est sur le fond, et la seconde, c'est sur la forme. Sur la forme, comme tout Togolais conscient, c'est que c'est comme si nous n'avons pas été très considérés dans les sphères des décisions.
Quand vous parlez de nous, vous voulez parler des Togolais?
Des Togolais qui n'ont pas participé à la prise de décision de la 5e République. Et ça a été un choc presque pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire la forme, la manière dont c'est amené, la manière dont on dirait que la 5e République nous a été imposée. Et pour nous, ça pourrait être mieux. Maintenant, quand nous revenons au fond, c'est-à-dire de la nature même de cette 5e République, nous disons que si nous dépassons ce clivage de critique pour critiquer et nous rentrons dans le fond, et que la partie fonctionnelle de cette 5e République peut être vraiment appliquée, nous pensons que ce serait un plus pour ce pays. Nous voyons depuis plusieurs années les Togolais qui crient partout. Vous avez plus d'une centaine de partis politiques, de l'opposition, de telle ou telle chose. Maintenant, ça nous impose une manière d'agir autre que la recherche seulement d'un fauteuil. Il est maintenant question de pouvoir s'imposer pour que ce que nous appelons expertise politique puisse être fructueuse pour la nation togolaise. Et nous, à la Nouvelle Vision, vous n'êtes pas sans savoir que notre politique, notre stratégie, c'est la stratégie des 3C, contribuer, collaborer et contraindre. Et nous pensons que la 5e République, si elle est fonctionnelle, ça permettra ce que la nouvelle vision puisse apporter d'une manière plus précise son expertise pour le développement de notre nation.
Oui, docteur Ton, c'est vrai que les contestataires, lors de cette nouvelle constitution, disent que, en fait, pour ce qui concerne le président de la République actuelle, que cette nouvelle constitution est venue alors pour faire qu'il soit là éternellement au pouvoir. Et finalement, quelle est votre observation, analyse alors dessus?
Bon, l'analyse logique, quand vous lisez les articles depuis les 92 et autres, vous allez voir que tant que le parti majoritaire demeure majoritaire, donc le président du conseil des ministres sera toujours de leur parti. Maintenant, ça nous impose, nous qui ne sommes pas de leur parti, une nouvelle manière d'agir. Donc je ne pense pas que c'est un chaos. Parce que c'est ça, mais ça nous donne une réflexion interne au niveau des partis de l'opposition pour que nous puissions changer de méthode, changer de la manière dont nous faisons la lutte afin de pouvoir contrecarrer. Parce qu'il y a toujours un moyen de pouvoir aller au-delà de ces, manigances, si c'est le cas, pour arriver à une solution fructueuse. Pour nous, oui, ça semble être le cas, mais avec le peu d'intelligence que nous avons, que Dieu nous a donné, et peu de sagesse que nous avons en notre sein, je pense que c'est toujours possible de pouvoir trouver autre solution que ce que pense tout le monde.
Et quel mécanisme allez-vous utiliser peut-être alors pour changer les choses telles que vous le dites?
D'ailleurs, il faut aussi reconnaître que maintenant que nous rentrons dans la 5e République, et que si le leadership politique est toujours l'outil indispensable pour le développement de cette nation. Il faut que nous, partis politiques, surtout qui ne sommes pas au pouvoir, qu'on appelle très souvent les partis de l'opposition, nous puissions nous regrouper. Et j'ai toujours dit, de mon analyse, je vois quatre courants politiques au Togo de l'opposition. Quand je parle de ces courants politiques, je parle de ceux qui sont là parce qu'ils sont anciens dans la lutte. Ils sont engagés, ça fait longtemps, donc les anciens. Il y a d'autres qui sont là parce qu'ils ont été victimes des faits politiques. Ils ont été victimes de l'abus du pouvoir de certains et puis ils sont rancuniers envers toute décision provenant de l'autre côté. Il y a d'autres aussi qui sont là parce que la politique permet, la politique est un job. La politique permet de pouvoir manger, de pouvoir insister, de pouvoir faire des relations et autres. Et puis il y a le quatrième courant qui sont ceux-là qui veulent faire de la politique un outil, un tremplin pour le développement. Donc si déjà avec cette situation que nous avons,
où, là
bon, vous savez, quand vous analysez la définition même de la nouvelle vision, c'est à vous que je vais poser la question parce que vous êtes jeune Togolais également. Vous positionnez la nouvelle vision où? Bon, on reviendra sur ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, si ces courants politiques de l'opposition peuvent se rassembler, c'est-à-dire si on peut déjà avoir, pour commencer, quatre courants politiques au lieu d'une centaine de partis politiques, c'est déjà un premier pas. Maintenant, de ces quatre courants politiques, nous pourrons faire des pourparlers, nous pourrons faire des analyses, des différences entre nous pour arriver peut-être à deux courants politiques et pourquoi pas à un courant politique. Et si nous arrivons à un seul courant politique contre le régime au pouvoir, je pense que la Ve République n'est plus un outil vert pour l'autre côté. Donc ça devient maintenant un challenge d'application de la réalité de la politique sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi comprendre que la population togolaise est éveillée ou bien commence à être éveillée sur les questions politiques. Autant jadis, quand vous voulez parler politique, tout le monde se dit « Ah, je ne suis pas dans ces affaires de politique. » Mais ça nous permet aujourd'hui, c'est-à-dire les avancées politiques, aujourd'hui nous permettent d'expliquer à tout citoyen togolais que nous sommes tous des outils politiques. Et si nous ne prenons pas nos décisions, si nous ne nous impliquons pas dans la prise de décision, on prendra les décisions à notre place. Et si nous sommes fatigués les résultats politiques, et nous devons nous poser la question de savoir si celui qui nous fatigue est fatigué de nous fatiguer. Sinon, nous devons tous nous impliquer. Je pense que avec cet éclair que nous avons, c'est-à-dire cette nouvelle manière de conception de la politique de la jeunesse togolaise, il n'est plus aussi très facile de duper le peuple, car les gens sont là, ils veulent voir le résultat, papa, ils veulent voir celui qui est capable d'apporter une solution objective à ce qu'il a comme problème.
D'accord. Nous sommes rejoints par notre confrère Magula Kinviteko. Magula, bonjour.
Bonjour à toi, Pascal. Bonjour, confrère, notre invité. Bonjour à nos fidèles auditeurs.
J'espère que tu vas bien.
Par la grâce de Dieu, tout va bien.
D'accord. Ambrasse, c'est vrai, nous sommes en train d'écouter docteur Aubinton. Vous l'avez écouté aussi religieusement tout de suite. Quelle est l'analyse alors que vous faites alors de ces propos? Ou du moins, si vous avez une question également à lui poser, ce serait quand même la bienvenue.
Oh, d'abord, bonjour à monsieur docteur Aubinton, qui est un monsieur qui est dans le développement. Étant politique, il a décrit les quatre courants politiques. Moi, je le classe dans la dernière option, je crois. C'est la caricature qu'il a faite qui m'intéresse par rapport aux courants politiques que nous avons dans notre pays. Et si ma mémoire retrouve celle de l'éléphant, je peux me dire que le premier courant, c'est ceux-là qui sont les anciens, qui sont dans la sphère politique depuis longtemps et qui luttent pour accéder au pouvoir. Le second courant, c'est ceux qui ont été, c'est des aigris, ceux qui ont été brimés par le régime en place depuis 60 ans, dont les fils ont pris le flambeau pour pouvoir, pas forcément régler les comptes, mais pour pouvoir accéder au pouvoir et chercher à corriger certaines choses. La troisième, c'est les businessmen. Et ces businessmen sont ceux-là qui sont souvent des nomades.
Les businessmen qui sont en politique.
Qui sont en politique, qui font souvent de la transhumance aussi au niveau de l'Assemblée. Si ce n'est pas de l'Assemblée, qui est le parti politique, qui font le show le matin, le midi, et ils cherchent du thé à prendre, le soir, ils regagnent le camp qui est au pouvoir. Donc c'est là, moi, je classe, regarde le pouvoir en ayant des postes de ministre délégué à la jeunesse. C'est l'exemple que je donne. C'est juste un exemple. Maintenant, le quatrième courant, je crois que c'est moi, je le classe dans le quatrième courant parce que il n'est pas venu en tant que politique. Il a certainement scruté le paysage politique togolais et l'option qu'il a choisie, c'est d'être un mouvement qui booste le développement à travers la jeunesse. Et il s'est engagé depuis longtemps. Moi, je le suivais. Puisque moi, nous, on est dedans, ça fait 25, 26 ans qu'on est dans la presse. Et donc, je le suivais. Il arrivait, il venait. Il allait à Vaughan, dans les Ardents, à V, Bagbé, tout ça là, et ailleurs. Et je crois qu'il est dans le courant du développement. Et moi, je l'encourage à continuer ce travail qui n'est pas facile au Togo, hein, parce que c'est pas évident. On peut chercher même à savoir, lui, il trouve l'argent où pour venir faire tout ça là ici. Et on ne peut pas s'en passer quand on est au Togo. Mais ce que j'encourage, c'est le fait qu'il soit téméraire à continuer dans ce tassement de fer. Tout ce qu'il a dépensé au cours de cette législature, Dieu seul le sait. Pourtant, il est toujours là. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Et il rejoint pratiquement le camp de ceux qui sont là en premier. Parce que les gens ont perdu leur maison, ils ont perdu leur femme ou leur mari dans cette histoire, mais ils sont toujours là. Donc, ça, c'est ce qui concerne sa lutte pour le développement de notre pays. Et je l'encourage à continuer. Maintenant, ce qui est de la politique au Togo, moi, j'ai comme l'impression que nous... Non seulement nous faisons du surplace, mais on retourne en arrière par rapport aux autres États, aux autres pays, parce que vous ne pouvez pas comprendre que le Mali ou le Niger ou le Burkina qui ont eu à connaître de nouveaux dirigeants militaires, on le dit, mais vous allez voir des rails qui ont quitté Kaï pour arriver à Bamako, au Mali tout récemment. Vous allez voir d'autres qui exploitent de l'uranium, pas l'uranium, mais qui ont pris en main leur destinée à travers cette souveraineté-là en faisant du gagnant-gagnant. Vous voulez exploiter, nous avons 50%, vous avez 50%. Ou ça, vous avez 40%, non 60%. Pas comme les Français le font, ils prennent 90% et la Côte d'Ivoire prend 10%, autant de Gbagbo ou autant de Bédié. Donc, moi, je crois que notre problème n'est pas un problème de régime, en fait. Quand les gens virent vers un régime parlementaire, ce qui n'en est pas aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas être dans un régime parlementaire et dire qu'on va voter le premier ministre ou le chef du gouvernement qui est sans débat. Ça, ce n'est pas la démocratie. De deux, on ne peut pas absoudre ou carrément enlever le droit des Togolais à élire son président de la République par un suffrage universel direct. C'est incommensurable. Et en plus, on ne peut pas vivre dans un pays où le militaire est toujours aux aguets, proche aux politiques, alors que le militaire est dissocié du politique. Le militaire suit les politiques. Parce que on se veut être un État républicain. Et dans une républicanité, il y a cette forme du respect des lois, et des lois qui émanent du peuple. Et un régime parlementaire, je l'ai toujours dit, que c'est un régime qui octroie plus de pouvoir au peuple à travers ses représentants.
D'accord.
Donc, on n'est pas dans ce schéma. Donc, nous sommes toujours dans l'ancien système. Nous sommes dans une dictature habillée, une démocratie.
D'accord. Ok. Magla, vous avez écouté aussi Dr Robin Thon sur ses analyses alors de la vie politique au Togo. Et qu'est-ce que vous pensez ou quelle analyse faites-vous?
D'abord, bonjour. Alors, disons que j'étais arrivé de plein pied dans l'émission et j'ai suivi un peu religieusement son développement. Mais j'avoue que l'analyse que je fais de sa vision, de son parti et tout ce que ça incarne comme philosophie, je me dis ça devrait arriver un jour. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire que la jeunesse n'est pas un délit. Mais tout est question de philosophie et de comment est-ce qu'on perçoit le monde. Ce n'est pas pour rien que dans le monde occidental, par exemple, il y a des gens qu'on appelle des politologues. Ou alors, lorsque vous devrez toucher à la matière politique, vous devrez forcément passer par la science po. Mais la question que je me pose, c'est que chez nous, ils en sont combien? Et ces gens-là, je les appelle des hommes de la matière. Parce que c'est des gens qui ont pris le temps d'étudier la matière pour savoir que c'est une matière assez dynamique, qui n'est pas statique, qui évolue selon le temps, selon le rythme du temps. Maintenant, chez nous, j'ai l'impression comme on est dans un ensemble où on n'a même pas une réelle identité, c'est-à-dire qu'on peut s'appeler politicien ou politique sans avoir une réelle identité. Ailleurs, c'est les gens du socialisme, c'est la gauche, c'est la droite et tout ça, mais chez nous ici, je le dis avec certitude que ça va être même difficile. Lorsque vous demandez à un militant, il appartient à quel bord politique, est-ce qu'il est du courant socialiste, un militant aura de la peine à dire ou à classer son parti politique.
Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas d'idéologie, c'est ça?
C'est l'impression que j'ai. Loin de là, l'idée de manquer du respect à tous ces acteurs qui sont là, mais c'est le fruit d'une longue analyse que j'ai eu à faire. Et c'est pour ça justement que l'arrivée des gens comme Dr Aubin, je ne l'ai jamais vu, c'est ma première fois de partager un plateau avec lui, mais ça ne m'empêche pas quand même d'affirmer que il y a de l'avenir pour ce Togo. Lorsque je vois ces jeunes qui se lancent dans la politique, parce que nous avons une culture chez nous, c'est que quand on est jeune, on ne fait pas de la politique. Moi, je me rappelle encore dans notre tendre enfance, mais c'est carrément interdit d'évoquer la politique à la maison. On vous tape sur la bouche, on dit « je ne fais pas la politique ». Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que mais plus les jours passent, plus les jeunes s'aventurent dans ce domaine-là. Et c'est de bonne guerre. Vous savez, aujourd'hui, pour de rien du tout, vous allez voir que ceux qui incarnent la classe traditionnelle des acteurs politiques, mais pour rien du tout, les gens deviennent des ennemis. Il y a des égos surdimensionnés, moindre chose. On demande que l'autre présente des excuses publiques avant de se voir. Mais quand vous mettez dans un ensemble tous ces éléments d'appréciation, mais je me dis, si on veut garder ce cap-là, ben, on finira forcément par se perdre. Et c'est tout justement la nécessité de réorienter, n'est-ce pas, la vision ou la conception qu'on a de la politique. Le docteur l'a dit tout à l'heure, que ailleurs, ben, c'est peut-être un tremplin pour certains, et ailleurs également, c'est peut-être une matière qui permet à certains d'être uniquement au service de l'autre ou du moins de la population, mais pour d'autres, c'est carrément du business. Aujourd'hui, vous allez voir que ailleurs ou dans le monde occidental, beaucoup plus, là où nous tirons plus nos exemples, il y a des gens qui ne font que ça, la politique. C'est pour ça que moi, je suis de ceux qui pensent que désormais chez nous, il faut qu'il y ait une école de la politique. Il y a une école où ceux qui aspirent à faire la politique aillent à cette école, apprendre la matière, savoir qu'on ne fait pas la politique pour soi-même, soit pour autrui ou alors pour atteindre un objectif donné qui soit l'intérêt public.
D'accord.
C'est pour ça, franchement, je dis, peu importe peut-être les coups bas, les micmacs, les petits soucis qu'il a, parce que je sais qu'il doit être le tout premier candidat déclaré pour la présidentielle 2020, mais également le tout premier à être recalé. Je ne sais pas si ce dossier n'était pas au complet, mais c'est pour dire que la réalité de la politique chez nous, c'est comme ça. Mais qu'il ne s'avoue pas vaincu parce que c'est une longue marche. Et lorsqu'il est convaincu de ses idéaux, il y arrivera forcément.
Alors, docteur, quand on écoute alors nos confrères par rapport même d'ailleurs à cette difficulté que les politiciens ont chez nous, allons-nous dire qu'il est difficile d'être alors politicien au Togo ou du moins, comme quelqu'un l'affirmait tout récemment, que mais il n'encourage même pas les jeunes à rentrer en politique. Est-ce que c'est difficile de faire la politique au Togo?
Je pense que si c'était difficile, je ne serais pas ici. Tout est question de l'engagement, de la passion, de la finalité que nous avons de la chose. Difficile de pouvoir apporter son expertise pour les autres, je ne pense pas. Mais c'est un appel, c'est toute une c'est une finalité. Maintenant, si ce que vous faites pour vous c'est votre apport pour le bien-être de votre population, vous vous sentez à l'aise en le faisant, tout ce que vous allez rencontrer comme handicap sera pour vous comme des jeux. J'ai toujours dit, lorsque tes handicaps deviennent pour toi des petits jeux, tu sais que tu vis ta passion. Donc on ne rentre pas en politique seulement pour rentrer, on rentre lorsque nous on sait qu'on peut apporter quelque chose. Et je l'ai entendu tout de suite M. Magloire parler de l'école politique et haute. C'est bien, c'est, je crois que c'est une bonne idée. Et la question de savoir si le Togo n'a pas une idéologie politique, c'est une question très bien fondée. Mais là, le problème que nous avons également, c'est que si on parle de l'école des politiques, maintenant, qui enseigne la matière et c'est quelle politique on nous enseigne là-bas? Et nous devons aller, pour moi, nous devons, cette école dont il parle, nous devons aller dans les temps immémoriaux de voir comment nos sociétés ont été gérées et faire une analyse comparative des temps anciens. Parce que si moi je vois même les gouvernements, l'Assemblée nationale, le Sénat, et je revois par exemple des anciens villages, comment les affaires du village ont été gérées, je vois qu'il y a une identité, qu'il y a une ressemblance entre ce qui était fait pour, avec les sages, avec le roi, avec les mages autour de lui. Il y a une ressemblance. Donc nous devions tirer pour ce que nous sommes de notre politique pour développer une idéologie politique afin de les enseigner dans nos écoles. Sinon, nous serons toujours des apprenants de la politique d'autrui. Or, la politique d'autrui ne fait que nous balancer derrière leur politique et ça crée ces pays sous-développés que nous avons.
Finalement, si je vous comprends bien, on ne peut pas adapter peut-être la politique de notre politique, c'est ça?
Exactement, on peut pas le faire. Chacun a son identité. Et j'ai écouté M. Ombras tout de suite se demander comment se fait que des pays qui ont eu récemment des leaders militaires instantanés arrivent à faire des exploits de développement. Mais tout est question de volonté. Imaginez, moi, en tant qu'économiste, j'ai fait mes études également ici au Togo, sanctionné par une maîtrise en économie à l'université de Lomé. Toute une formule très simple, avec des petits recoupements, nous pourrons réduire notre budget national à moitié. Et avec ça, nous pourrons faire, il y a des systèmes qu'on peut mettre sur pied, on va réduire les impôts, mais on va avoir un pays où le développement de l'indice humain sera même meilleur. Donc, tout est question de volonté. Et quand on se dit peut-être que ce n'est pas une question de régime, bien sûr, mais c'est une question d'une équipe qui a une manière de faire les choses dont les résultats ne sont pas applausifs.
Donc, on parle de question de gouvernance.
Exactement. Et au-delà de ça aussi, c'est une question de l'implication du Togolais. Parce que, moi je dis toujours, le chef de l'État par exemple peut prendre de bonnes décisions, mais ne serait pas partout pour vérifier. Le système de gestion d'un pays, il faut qu'on revoie en mettant en considération nos identités. Ce que nous apprenons même à l'école, ça contribue positivement et négativement à ce que nous vivons. Donc il faut une refondation, une analyse nouvelle de là où nous voulons aller, en se demandant de quoi on a besoin pour y arriver et commencer à les produire. Et je pense que ça développera l'idéologie de la politique togolaise qui sera peut-être les sujets ou bien la matière à enseigner aux autres politiciens.
D'accord. Nous allons nous intéresser au développement de notre pays. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur puisque vous avez prononcé à maître reprise le mot développement dans votre intervention tout de suite. Je sais que ça vous tient tellement à cœur. Alors, développement, nous savons quand même qu'il y a l'indice alors de développement humain où le Togo a été classé premier dans l'espace UMOA, quatrième dans l'espace CEDEAO. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas aussi une expression de volonté chez nos politiques ou les autorités?
Oui, applaudissons si c'est bon. Et si nous sommes premiers en quelque chose, peu importe notre bord politique, il faut aussi encourager les efforts qui sont faits. J'applaudis. Néanmoins, je ne veux pas un classement qui... c'est comme si je suis premier parmi ceux qui ont échoué. Oui, je suis premier, mais est-ce que ma moyenne, est-ce que c'est concevable par rapport aux aptitudes que j'ai? Est-ce que c'est concevable par rapport aux ressources dont je dispose? Est-ce que c'est concevable par rapport à la technicité que j'ai? Donc, il faut pas seulement jouer sur ces gros indices pour pouvoir se glorifier pour rien. Oui, c'est bon, on est premier, on fait de l'évolution, mais une évolution doit aussi prendre en considération le niveau minimal que nous devons atteindre. Donc, on ne va pas s'applaudir parce qu'on est premier parmi ceux qui sont en train de
De traîner le pas.
De traîner le pas. Mais il faudrait qu'on puisse arriver à nous dire que les ressources dont dispose le Togo, la qualité de la gestion du pays, la gouvernance fait que nous devons atteindre par exemple un indice de développement à tel niveau et que le régime actuel a même dépassé cela. Ça, on doit l'applaudir parce que nous avons, c'est-à-dire, on dit apprendre par compétence, APC. Donc ça veut dire que nous devons savoir si nous sommes compétents, pas seulement un rang classé. Et j'ai démontré la dernière fois comment à chaque fois nous prenons plus plaisir de nos rangs au lieu de voir nos compétences. À l'école, on se dit X a 10 sur 20, on l'applaudit, l'autre a 8, on l'insulte, et prochainement, lorsqu'il aura 7, et celui qui aurait 10 avant, à 6, il s'applaudit. Pourquoi ? Parce qu'il a dépassé l'autre. Ce dépassement n'est pas au fait l'analyse d'une compétence. Moi, je pense que nous disposons des ressources, nous disposons des hommes capables, nous disposons d'une diaspora impliquée, nous disposons des jeunes Togolais entrepreneurs qui, malgré les conditions, veulent entreprendre. Nous devons créer un cadre pour que l'indice de développement dont nous parlons puisse rimer avec les ressources dont nous disposons et non seulement nous classer dans l'espace.
Et justement, quand on parle alors de cette question d'indice de développement humain où le classement a été fait, d'aucuns parlent alors ou d'aucuns arrivent à mettre la corrélation entre l'indice là où le classement et aussi la réalité du Togolais. On se demande, est-ce que justement ce classement a un impact sur le quotidien du Togolais?
Bon, sur le plan international, vous savez, l'indice de développement, la gouvernance travaillera pour ça. Mais revenons à la maison. Même quand on parle de recensement, est-ce que nous avons un fichier qui, au fait, reflète le nombre de Togolais que nous avons aujourd'hui? Parce que c'est le recensement dernier, général de la population, j'ai vu des jeunes qui sont réticents au recensement. Pourquoi? Parce qu'ils collent le nom politique à tout. Or, c'est ce recensement qui donne, par exemple, le nombre de Togolais que nous sommes, le nombre de femmes, le nombre des enfants, l'évolution, pour faire des projections dans le futur. Mais nous ne comprenons même pas ce qu'on appelle recensement. Et nous sommes, nous abstenons de recenser. Mais quand on parle d'indice de développement, où c'est une statistique basée sur ces recensements, par exemple, c'est clair que ce ne serait pas correct. Pourquoi ? Parce que la population même n'arrive pas à se recenser. Alors qu'il y a des stratégies très simples. Nous faisons des cartes d'identité tous les jours. Nous avons des numéros personnels d'identification. Nous devons en faire, au fait, un système qui permet à tout Togolais d'avoir une possibilité de se faire recenser stratégiquement, systématiquement, lorsqu'il va pour déclarer sa naissance ou bien pour faire sa nationalité. Il y a tellement de choses que nous pourrons faire. Et avec ce référentiel, avec cette base de données, la gouvernance va refléter les réalités. Mais si nous ne savons même pas, en toute réalité, combien de personnes nous avons sur le terrain nous dit, par exemple, que nous sommes premiers dans ça. Ça ne va pas refléter ce que nous avons dans le panier de l'aménageur.
D'accord. Magla, est-ce que vous avez l'impression que, déjà, pour ce qui concerne alors ce classement de l'indice alors de développement humain, ça ne rime pas trop avec la réalité du Togolais?
Ben, vous savez, nous, on est des journalistes et on ne parle que du concret.
Tout à fait.
La réalité, c'est que c'est des chiffres qu'on avance pour étayer justement ce classement du Togo. Ben, en tant que Togolais, on peut que s'en réjouir. Mais alors, en tant que journaliste, cela nous amène, n'est-ce pas, à vouloir savoir véritablement quels sont les indicateurs qui ont concouru justement à ce qu'on ait ce classement assez, on va dire, flatteur aujourd'hui. Mais au bout de la chaîne, il faut avoir le courage de l'avouer. Que c'est un peu touchant de le dire, mais quand vous voyez les réalités du terrain par rapport aux réalités théoriques telles que justement ce classement, mais ça semble un peu le jour et la nuit. Mais vous vivez au sein de la masse. On parle de l'indice de développement humain, c'est bien beau, mais Pascal, dis-moi, est-ce que les Togolais sont vraiment heureux? Est-ce qu'il y a le développement qui se sent, qui se lit sur le visage des Togolais? C'est vrai, on va pas tout jeter en pâture. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, depuis 2005, à son arrivée au pouvoir, il y a près de 18-19 ans, il a fait des choses selon sa capacité. C'est vrai peut-être que on peut lui reprocher de faire plus que ça, mais il a fait quand même du chemin. On doit être reconnaissant ou on doit l'admettre. Mais la réalité, c'est que ben, quand vous jetez un peu un coup d'œil, un peu vers nos pays voisins, ce n'est toujours pas un exercice comparatif. Mais il faut toujours voir à peu près ce qui se fait ailleurs. Mais quand on voit un peu ce qui se fait ailleurs, et par rapport, n'est-ce pas, aux ressources que nous avons, que Dame Nature a, dont Dame Nature a doté le Togo, on se dit que on peut mériter mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que les Togolais arrivent à manger trois fois au quotidien? Ça, c'est un exercice assez compliqué. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pour ça que je dis, en tant que Togolais, je suis très ravi que ce classement puisse hisser le Togo à un niveau assez acceptable, sinon enviable, dans l'espace CDAO ou UMOA. Mais ça me rendrait plus fier si cela se sent dans nos plats. Nous allons au marché, les produits de première nécessité sont extrêmement chers. Alors, quel est le niveau de vie du Togolais lambda? C'est difficile pour le Togolais lambda de se sentir fièrement, en tout cas fièrement, citoyen togolais à un moment donné. Moi, j'ai écouté un confrère journaliste la dernière fois, un aîné, qui me racontait un peu une mésaventure, c'est-à-dire quoi? Il était allé au Bénin, il a été reçu par des confrères béninois en pompe, en toute confraternité. Et il était vraiment séduit par l'accueil, mais deux, trois semaines après, son téléphone sonne, c'est le confrère béninois qui l'appelle que, ben, cher ami, je viens d'arriver à Lomé, est-ce qu'on peut se voir? Mais il a réfléchi mille fois, mais il n'a pas hésité avant de lui dire que, désolé, ben, je suis à Accra, alors qu'il est à Lomé. C'est-à-dire qu'il ne se voit pas en mesure de lui retourner l'ascenseur. Ce qu'il a vu au Bénin, il n'est pas en mesure de satisfaire son confrère béninois, comme il a été au Bénin. C'est un tableau assez pincant, mais c'est aussi le reflet de la triste réalité togolaise. C'est bien, du chemin est fait, mais je vais encourager les dirigeants à faire plus que ça pour que si dorénavant ces classements sortent encore, que les Togolais soient les premiers à applaudir que véritablement ces institutions ont raison parce que nous vivons bien, nos plats le démontrent clairement.
D'accord, merci Magola. Et Ambrose, c'est vrai que quand on prend l'UMOA, allez, en quelque sorte, quand on parle alors de l'économie, ou le pays qui est le mieux nati en matière alors d'économie, c'est la Côte d'Ivoire. Et il semble même d'ailleurs que l'Ivoirien vit mieux que le Togolais. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, en matière d'indice alors de développement humain, c'est le Togo qui est classé premier. Ce n'est pas paradoxal?
Bien évidemment, c'est un paradoxe. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, le Togo, c'est le jour la nuit, hein. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, à des mètres, deux pièces, une pièce que nous faisons là-bas, c'est six pièces. Moi, j'ai ma grande soeur qui a vécu là pendant au moins 35 ans. Ses enfants sont là-bas actuellement. Et donc, quand vous voulez, Boumanyanya, tout ça là, et Aglan, tout ça là, c'est cinq ou six pièces. Ici, c'est une pièce. Pour ceux qui comprennent, ils comprennent. Maintenant, revenons à l'IDH, l'indice de développement humain dont on parle. Ça dit que, je prends juste le cas de journaliste. Il a donné l'exemple du journaliste. Puisque le baromètre, c'est le journaliste. Si on commence par le journaliste, on peut savoir si réellement le Togolais lambda qui vend du gaou à côté aussi vit bien dans ce pays, le Togo. Quand vous allez au Sénégal ou au Bénin, vous allez comprendre ce qu'on appelle un journaliste. Ici, le journaliste, c'est le communicant. C'est celui qui est renvoyé souvent en prison. Ça, c'est le tableau du journaliste au Togo. Et c'est celui-là qui végète. Une petite maladie peut l'emporter. Il y a deux qui sont partis. Trois, quatre. Il y a Maouna Fidèle qui est à Radio Lomé. Il y a mon fiole, et Frangin, et Agmori Milek Agboku, qui est passé chez moi à Vitua FM. Il y a mon frère, comment on l'appelle? Il est musulman, lui, il est musulman.
Alassani,
qui est décédé dans la misère. Il y a d'autres qui sont passés, Lolon, ils sont passés.
Vous
comprenez? Jean-Marie Leblanc aussi, il était à Sport FM. Et Taxi FM. Vous comprendrez que ce tableau est noir. Tout simplement parce que les autorités n'ont pas la volonté d'aider la presse. D'abord, on va pas vous donner l'argent pour nous critiquer, quoi. Alors qu'au Sénégal, les gens sont à plus d'un milliard à l'aide de la presse. Ici, c'est 150 milliards. Depuis la nuit des temps.
150 millions.
Avant que même les médias numériques ne se créent. Ils sont pratiquement plus de 150. Où sont eux? eux aussi vont bénéficier de cette aide. Hein. Les mêmes 150 000. 150 millions. Hier, on était à la Hague. Et le tableau est là. On est obligé de leur faire un forfait parce qu'ils ne sont pas dans le lot. Les radios, les télévisions, la 150 ou 200 de presse écrite. Et c'est la presse écrite qui bouffe le plus. Mais on a pratiquement les mêmes ratios. Vous dépensez 3 à 4 millions par an pour un journal, un hebdomadaire. Vous vous retrouvez à 700 000 au niveau de l'aide de la presse. Il faut qu'on le dise. Que les Togolais sachent ce que nous vivons dans la presse. C'est pourquoi les gens végètent. Ça, c'est le baromètre. Maintenant, quand on parle théoriquement d'un indice qui rehausse l'image du Togo en tant que premier, eux, ils sont premiers sur le papier. Hein. Madame Blaba Johnson, tout ça, là, ils sont premiers. Moi, je ne suis pas premier. Avant que je ne sois premier, il faut que F.O. Nyasimbe, dans le cas des journalistes, on ramène au moins l'aide de la presse à 1 milliard. Ne serait-ce que 500 millions pour un début. 150 millions même, à une période donnée, on a enlevé. C'est bon, combien 25 millions ou quelque chose comme ça. C'est autant de...
Bon, de l'IFC,
dis-moi. Oui, bon, je ne sais pas si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Mais pour vous dire que faut pas nous rabattre les chiffres ronflants. Le Togolais ne veut pas des chiffres. Le Togolais veut ce qui est vivable, le panier de la ménagère. Combien sont payés les fonctionnaires togolais? Ceux qui sont, que ce soit dans l'administration publique ou parapublique, les comités territoriales, combien ils sont payés? Est-ce que le SMIG dont on a augmenté, les privés en bénéficient? Tout le minimum qu'ils prennent là, on les a encore affublés de AMU, de plein de choses. Tu as 150 000, tu te retrouves peut-être à 100 000. Parce qu'on a tout retiré. Et l'AMU là-même, les gens sont allés là-bas, ils ont la caille, ils ont tout. Tu ne peux pas aller te faire soigner. Parce qu'on les chasse même dans les cliniques. Ça, on va revenir sur ça. On a été les premiers à sortir un dossier que cette histoire d'AMU là, c'est de l'escroquerie. Qu'ils m'entendent, ils savent ce que je dis. Parce que beaucoup, j'ai encore un message ce matin, hier c'était un autre message. Les gens se plaignent de cette histoire d'AMU là. Moi j'avais dit que c'est une escroquerie, c'est encore une mutuelle, pas une mutuelle, une assurance de l'État. L'État est en train de créer une assurance là, et comme les GTA, tout ça là, pour emmagasiner l'argent pour aller faire quelque chose. Alors que les gens déjà vivent dans la pauvreté, ils ont un maigre salaire et ils s'en sortent difficilement. Donc cette histoire d'IDH là, je conclue.
Oh, il conclut,
il faut qu'on cesse de nous rabattre les oreilles. Parce que c'est la même chose quoi. Nous on souffre, vous nous dites que le Togo est premier. C'est premier, on va manger ici.
D'accord, merci beaucoup, Ambrose. Alors, docteur Obeton, quand on suit en haut, du moins, c'est quand on voit même d'ailleurs, en quelque sorte, ce paysage, hein, par rapport même d'ailleurs à au panier de la ménagère, finalement, le Togolais souffre, c'est ça?
Ah oui, quand je vois un nombre de personnes qui vous appellent tous les jours parce que peut-être n'arrivant pas à payer même une ordonnance de moins de 5000 francs, hein. Un père de famille qui vous appelle tout juste parce qu'il a besoin de 2000 francs. Et quand tu vois le taux augmentant tous les jours de ce genre de besoins envers toi, je te dis, est-ce que ça s'améliore ou bien ça s'empire? Et moi, de mon propre expérience, je vois que ça s'empire. Et si ça s'empire, alors que l'IDH maintenant monte, il y a vraiment... c'est juste à poser. Mais ce que moi je dirais, c'est qu'il faudrait que, au-delà du tout, de tout, les gouvernants, c'est-à-dire le chef de l'État, puissent rentrer dans ces indices des institutions de la Bretton Woods, où il va avoir une manière directe de vivre l'IDH dans nos maisons. Il faudrait remettre sur pied maintenant des systèmes de gestion où sa lecture de la gouvernance dépasse seulement ces indices qui sont des fois peut-être fabriqués de toutes pièces pour colorer le Togo. Parce qu'il peut ne pas savoir. Il peut se dire, bon, il y a plusieurs gouvernants qui vont se dire, ah mais... On fait de l'effort, parce que si déjà on compare le Togo au Bénin, le Togo à la Côte d'Ivoire, et que dans l'humour on est premier, dans essayant de le dire, nous sommes premiers par rapport aux autres. Ça veut dire que nous avançons plus que les autres sur certains points. Mais est-ce que la gouvernance actuelle permet de pénétrer hein, les retombées de cette gouvernance que nous avons? Je vois à chaque fois à TVT des projets de l'État, des mécanismes de financement de l'État. Et quand vous lisez, vous allez dire bravo. Le Togo a mis sur pied des mécanismes qui vont permettre permettre à plusieurs jeunes de s'en sortir. Des fois même, vous allez lire des rapports où des centaines de jeunes Togolais ont bénéficié de telle ou telle chose, et voilà le résultat. Mais des fois, je me demande, ces jeunes-là sont où? C'est-à-dire, tu ne les vois pas, et ils ne témoignent jamais de ça, et ceux qui sont derrière vous pour Kimandé sont toujours là. Maintenant, les jeunes qui bénéficient de ces atouts, de ces mécanismes de des milliards qu'on nous injectons dans l'économie togolaise, ils sont où? Et est-ce que réellement le chef de l'État ou les plus proches gouvernants arrivent à vérifier au fait les données qui sont là? Parce que oui, il a les affaires internationales dont il fait face, et de la sous-région, et tellement de choses sur son plat. Mais il doit toujours aussi avoir un mécanisme qui lui permet de pouvoir vivre la réalité de ce que nous disons. Quand je prends l'exemple de la presse aujourd'hui, on dit, des fois, on critique la qualité de la presse. Comment tu peux être compétent au moment où même faire sortir même ta presse dans la semaine, tu dois aller commander à quelqu'un et savoir comment lui parler. Sinon, alors que tu as vraiment une ligne à défendre contre peut-être sa manière de faire, qui fera que le peuple sera éclairé ou bien qui va se corriger. Mais tu es obligé de
t'aligner.
De t'aligner, sinon tu ne peux pas le faire. Donc je pense que c'est important, surtout que nous parlons d'une éducation qui va nous permettre de nous développer. Donc il faudrait que la presse, que les gens appellent souvent la quatrième force, et moi je qualifie de force en premier, soit vraiment valorisée pour que cette éducation puisse passer. Oui, il est aussi important de souligner que il y a certaines personnes, par manque de déontologie professionnelle, font de la presse du n'importe quoi. Donc quand la presse est financée, il est maintenant elle doit être un pouvoir, mais elle doit également satisfaire la compétence pour laquelle elle a été payée. Sinon, on finira par se dire, on donne l'argent pour critiquer les autres, mais il faut que chacun de nous sache jouer son rôle.
D'accord. Docteur, nous allons aborder la question de la sous-région. Oui. Nous savons que déjà la CEDEAO était un sommet ordinaire tout récemment, et à la veille même d'ailleurs, c'était le dimanche dernier bien sûr, mais à la veille, le samedi, c'est plutôt le premier sommet de l'AES. Premier sommet de l'AES, c'est l'alliance alors des États du Sahel. Mais finalement, à l'issue alors de ce sommet, il y a une confédération qui est créée. Et parler alors d'une confédération, ça veut dire que ces trois pays tournent dos alors à la CEDEAO. Donc on pourra dire même d'ailleurs que la division ou la scission est déjà consommée entre ces pays et la CEDEAO.
Oui, bon, quand tu vois les réalités sur le terrain, c'est palpable. Et déjà, quand on va jusqu'à la création d'une confédération, ça veut dire que le positionnement est intensifié. Et oui, on sait que cette scission des deux blocs, c'est-à-dire de la CEDEAO et de la Confédération, a des impacts positifs et négatifs sur la vie des citoyens. Parce que si nous parlons de la CEDEAO, des communautés des États de l'Afrique de l'Ouest, la libre circulation des gens et des marchandises et autres, il faut savoir que dès que ces trois pays sortent de là, ça a un impact sur l'économie, ça a un impact sur les autres pays de la CEDEAO. Mais je pense au moins que, avant que cette confédération ne soit créée, ces trois pays ont eu le temps d'évaluer leur implication politique et développementale. Ils ont vu que même sans la CEDEAO, ils peuvent se soutenir, ils peuvent combattre le terrorisme, ils peuvent peut-être économiquement être forts, ils peuvent se financer leurs propres choses, ils peuvent mettre en contribution leur agriculture, leur expertise, parce qu'ils ont eu le temps de voir si vraiment ils peuvent gouverner sans. Mais si le résultat qu'ils ont eu leur permet de dire que aujourd'hui, voilà, nous avons été bloqués de telle ou telle chose, nous n'avons pas eu notre fonds appartenant à telle ou telle chose, néanmoins, voilà ce que nous avons pu faire dans notre pays. Si nous continuons sur cette manière de faire, nous arriverons à hisser la vie de nos populations à un rang respectable. Alors, ils ont pris leur décision basée sur ça. Maintenant, si la CEDEAO arrive peut-être à corriger les manquements à un niveau donné, au point où nous nous retrouvions ensemble encore une fois encore, je crois que ce serait la chose la plus louable de nos populations, parce qu'au-delà des politiques, il faut la vie des concitoyens. Il y a des gens qui sont au Niger qui doivent se rendre au Bénin, des gens qui sont au Bénin qui doivent se rendre au Mali, donc il faudrait trouver un cadre qui permet cette libre circulation. Néanmoins, nous avons été tous témoins des manquements des prises de décision de la CEDEAO dans plusieurs cas. Et s'ils arrivent, je crois qu'ils ont une section extraordinaire également, très bientôt, ils arrivent à prendre des dispositions qui vont sensiblement démontrer qu'ils vont corriger le tir et que cette institution deviendra plutôt un appui à toute la partie occidentale de l'Afrique, alors ça ira.
Entre-temps, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui déclarait que nous avons pris un chemin de non-retour. Mmh. Et finalement, tout récemment, au sommet, et surtout de la CEDEAO, il y a le président togolais et sénégalais qui ont été mandatés alors pour jouer le rôle de médiateur. Mmh. Est-ce que c'est un rôle difficile pour eux, puisque quand on déclare déjà que nous avons pris un chemin de non-retour?
Oui, et quand déjà un État ou bien un premier responsable déclare quelque chose, le faire retourner à sa décision n'est pas facile. Donc le chef de l'État togolais n'a pas une mission facile dans ça. Et passons déjà par le biais de cette question pour le féliciter pour tout ce qu'il a déjà fait à ce niveau, et pour au moins l'apaisement dans la sous-région par rapport à cela. Je crois que c'est applaudissif. On doit reconnaître que le chef de l'État togolais a fait. Bon, est-ce qu'il pourra encore arriver à faire au-delà de ça pour ramener les deux institutions ensemble? Si oui, nous allons applaudir. Mais sinon, trouvons quand même un terrain d'entente qui permet à ce que les populations n'en souffrent pas de cette décision politique des fois imposée par rapport à la nature des deux institutions.
D'accord. Ambrose, finalement, la CEDEAO est en difficulté aujourd'hui par rapport même d'ailleurs à ses prises de décision. Aujourd'hui, quand on prend ces pays de l'AES qui, finalement, c'est plutôt une confédération, et ces pays ne veulent plus revenir.
Oui, la CEDEAO est en difficulté à cause de sa propre turpitude depuis la nuit des temps. Je rappelle qu'elle est créée le 25 mai 1975. Un groupe de militaires, Yadema étant militaire et Gohan aussi étant général militaire. Et donc, aujourd'hui, si la CEDEAO est vent debout contre les militaires qui ont fait un coup d'État au Sahel, alors que c'est les militaires qui l'ont créé pour l'intégration des peuples, je crois qu'il y a un certain paradoxe, une dichotomie. Mais au même moment, on vous dira que la situation a politiquement changé et que cette CEDEAO qui se veut une CEDEAO des peuples, aujourd'hui est devenu un syndicat des chefs d'État. Et quand on transforme une institution qui doit être une institution des peuples en un syndicat de chefs d'État, soutenu bec et ongle par l'Occident, surtout la France, ce que reprochent d'ailleurs les trois pays du Sahel à cette CEDEAO-là, d'être manipulée, d'être contingentée, d'être à la solde de l'impérialisme nouveau, je crois qu'il y a matière à réfléchir par rapport à la nouvelle donne. Quant à ce qui concerne la création de la nouvelle confédération qui laisse penchoir les dirigeants de la CEDEAO, qui était va-t-en-guerre contre les mêmes pays, le Bénin en tête, Tinubu, le Nigeria suivant et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui qui ont été complètement démunis, je crois fondamentalement que c'est l'erreur commise qui fait que ces trois-là ne peuvent plus revenir. Ils ne peuvent plus revenir, et derrière la menace de Touré, le président de la commission, qui en dit long sur le caractère difficile de la médiation qu'on a eu à confier à Diomaye Faye en premier et à Fang Yassimbe ensuite. Fang Yassimbe étant faisant le pont, c'est-à-dire qu'entre les deux structures, la CEDEAO d'une part, même s'il n'a pas participé à ce dernier sommet pour des raisons qu'on ignore.
Et il y a le ministre Robert Doucet qui l'a représenté.
Il devait lui-même être présent en tant que chef d'État. Parce que c'est un sommet de chef d'État. Oui, c'est un sommet de chef d'État. Politiquement, il doit y avoir un problème.
Il y a d'autres présidents aussi qui n'étaient pas là.
Oui, mais politiquement, il doit y avoir... Nous sommes les journalistes, nous, on analyse la situation. Il doit forcément y avoir un problème. Parce que lui, il a toujours participé à tous les sommets. À moins qu'il soit malade, ça c'est compréhensible.
Ambrose Patrice Talon n'était pas là.
Mais Patrice Talon n'était pas là. Bon, ça, on le concède. Mais du côté des États de l'AES, dont je parlais en l'instant, qui sont en train d'évoluer, et qui ont formellement consacré une confédération, qu'est-ce que Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal, qui aussi a commis une erreur en faisant, après avoir fait le tour du Togo, le tour de la sous-région, sans passer par le Togo, est allé en France. Ça, c'est la fausse note, c'est la première fausse note d'un régime qui est anti-impérialiste au départ. dans leur configuration politique au Sénégal. Il ne fallait pas aller en France. Parce qu'on accuse la France, de noyauter la CEDEAO. Et c'est réel, c'est la vérité. Maintenant, tu vas en France pour aller foutre quoi? Maintenant, on te dit d'aller maintenant faire une négociation. Les gens vont t'étiqueter. Donc, la mission sera difficile. De deux, ce serait compliqué que nos frères des trois pays reviennent à la CEDEAO. Il appartient à la CEDEAO de changer de paradigme. Et de vision politique.
D'accord. Vous voyez ça. D'accord, merci beaucoup. Oui, Magloire, aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO doit faire?
Ben, qu'est-ce que la CEDEAO doit faire? Je crois que l'heure n'est plus à vouloir peut-être critiquer des gens pour leur approche, mais il faut absolument se questionner, hein, aller au tribunal de sa propre conscience aujourd'hui. J'ai un peu mal parce que jusqu'à un passé récent, la CEDEAO était pratiquement la meilleure des organisations sous-régionales du continent. Avec tout le respect que je leur dois, mais la CEMAC à un moment donné était là jusque de non. C'est la CEDEAO qui existait en tant qu'organisation sous-régionale bien structurée avec des principes bien donnés. Mais jusqu'à un moment donné, il y a eu une succession d'erreurs qui ont fait que, ben, à un moment donné, on a l'impression comme la CEDEAO incarnait beaucoup plus un club d'amis que plutôt cette organisation-là qui était là pour prôner la libre circulation des personnes et des biens. Et quand ça y est comme ça, les gens que vous êtes censés régenter ne se retrouvent plus dans votre gouvernance, mais c'est naturel qu'à un moment donné, qu'ils soient en déphasage avec ce que l'entité l'a fait. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'à un moment donné, l'armée, par exemple, on a donné le nom de Grande Muette. Mais je crois qu'avec l'évolution du monde, ce nom même est révolu. Parce que l'armée, quoi qu'on dise, est formée, en tout cas, est composée des citoyens qui vivent également les mêmes réalités. Mais alors, toi, président de la République, tu ne peux pas compter sur l'armée et faire de n'importe quoi entre griffes. C'est-à-dire que tu te dis, ben, je fais ce que je veux parce que l'armée est là. Alors que l'armée, c'est des citoyens. Mais à un moment donné, ils sont aussi des citoyens, ils peuvent se prononcer. Et c'est ce qui s'est passé dans ces trois pays. Maintenant, aujourd'hui, je crois que, comme le président Ibe l'a dit, les pays de l'AES sont dans une situation de non-retour. Mais, en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, carrément, il faut activer la piste de comment ça se dit de démarches diplomatiques pour essayer de résoudre la situation, parce que vous savez, aujourd'hui on est à l'étape de la confédération, et moi Ambra parlait tantôt d'une erreur peut-être que le président sénégalais aurait commis, et je fais la même analyse, parce que quoi qu'on dit, le président Faure Gnassingbé est le doyen des chefs d'état de la sous-région, et depuis le début de cette histoire, il était le seul médiateur d'abord accepté par les putschistes entre griffes, et à un moment donné repris par la CEDEAO. D'accord. Maintenant, vous ne pouvez pas faire ce tour et ne pas faire un tour à Lomé. Mais la réalité aussi, c'est que aujourd'hui, Lomé est le premier répondant de ces trois pays. C'est-à-dire que le seul partenaire fiable aujourd'hui de ces trois pays de l'AES, c'est Lomé. Et c'est ce qui m'amène même à me questionner sur le cas du Togo. Est-ce que d'ici demain, peut-être le Togo ne va pas rejoindre l'AES?
C'est des éventualités.
Parce que entre les États, ce n'est que des intérêts.
Tout à fait. Okay. C'est une question que vous posez. Notre temps est déjà avancé. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole aussi à nos auditeurs, puisqu'ils s'impatientent à entrer en ligne, à participer à ce débat avec nous. Et donc, nous allons leur donner la parole. Mais je vous rappelle tout simplement que dans les kiosques, hein, ce matin, ce jeudi, vous pouvez retrouver le journal Flambeau des démocrates, Jeunesse Info. Vous pouvez retrouver aussi le correcteur, Ouara les vainqueurs, la nouvelle tribune et aussi Chronique de la semaine, aussi le bâtisseur. Un autre journal, c'est le journal Le Changement que vous pouvez retrouver dans les kiosques et les bacs. Alors ce matin, nous observons une pause et nous revenons juste après. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Nous sommes toujours avec Dr. Aubenton, le président du parti politique Nouvelle Vision. Et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75. Michel Tomega qui nous annonce que c'est seul le 91 36 63 75 qui fonctionne. Donc, appelez seulement que sur le 91 36 63 75. 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui. Allô?
Oui, bonjour Pélé.
Bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
D'accord. Merci. Allez-y.
Oui, bonjour. Et d'abord, ma connaissance, le président Béton. Et depuis son arrivée sur la scène politique, on y voit dans son même discours, et tout est toujours battu.
Et puis Pélé, on a un peu de difficulté à vous écouter. On ne vous écoute pas. Il semble que vous avez plus approché votre bouche. Oui, votre bouche au combiné.
Allô?
Oui, oui. Allez-y.
Je dis, la première question dans le
Mais décidément, nous avons des difficultés à écouter Pélé. Pélé, vous allez vous arranger hein, pour que nous puissions vous reprendre en ligne. 91 36 63 75. On prend le temps alors de recevoir un autre. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Allô, bonjour, comment vous allez?
Bonjour, je vais bien.
D'accord, votre nom c'est... Allô? Il est parti. 91 36 63 75. 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui.
Bonjour, mon directeur.
Bonjour, papa Sibiti. Comment vous allez?
Bonjour, sur le plateau.
Bonjour.
À tout seigneur, tout honneur. Bonjour, mon président Roberto.
Bonjour, bonjour, papa Sibiti.
Si vraiment il faut passer, vous devez passer avec votre programme. Et ce que vous faites aux gens, que Dieu vous accompagne. Maintenant, ce que mon fils, le fils de mon grand frère, Conjo, a dit en France, c'est vrai. Mais je dis quelquefois non. Les politiciens, les enfants sont venus, c'est pour la vengeance. Je vous dis pardon. Deuxièmement, la transhumance. Vous avez vu, les gens ont fait de la transhumance dans ce pays. Vous avez vu ce que ça leur a coûté. Ici, les bords dont vous parlez, on ne peut jamais les avoir. La gauche et la droite. Vous savez, il y a plus de 100 partis. Et c'est ça qui amène la haine et la division entre eux. Comment faire si c'est les députés là qui doivent prendre la décision pour qu'il y ait au moins, au plus trois partis, on sait que si vous n'êtes pas de ce bord, ou bien vous êtes à gauche, ou bien vous êtes à droite, ou bien vous êtes à droite. Voyez, la politique togolaise, elle a beaucoup de problèmes. Je vais peut-être j'aurai la chance de revenir les politiques. Vous avez dit depuis 63 qu'on pelait ici. Les Bénins, les Kwakwa, ils se sont pénétrés dans nos programmes, dans nos pays, pour tout casser. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre intervention. 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Bien.
Votre nom c'est?
C'est Koffi.
Koffi. Allez-y.
Et votre collègue qui avait pris la parole et à la fin disait que la CDAO devait passer par le Togo et non par le Sénégal. Or, c'est nous-mêmes qui disons ici que oui, nous avons un souci de changement de constitution et que nous ne sommes pas du tout d'accord. Comment vous voulez qu'on passe par nous si déjà il y a des antécédents comme ça, peut-être qui sont là sur la table de la CDAO. Et c'est à nous maintenant qu'on va engager d'aller à Madoué, si je peux ainsi le dire, d'autres. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Koffi, pour votre intervention. 91 36 63 75, c'est à travers ce numéro que vous pouvez participer à l'émission Club de la Presse de ce jeudi. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ah, ça va.
Ça va aussi, votre nom?
C'est Monsieur Angelo.
Monsieur Angelo, vous nous appelez de quel quartier?
Aditikopé.
Aditikopé, allez-y.
Ça, c'est juste pour revenir sur le problème du Timide. L'État même ne fait pas le Timide. Hein. L'État même ne fait pas le Timide. Ah, je vous donne l'exemple de la CENI. La CENI, c'est le chauffeur du président de CENI. 45 000. 45 000 par mois. Et du jour d'aujourd'hui, ce mois de juin, même ils n'ont pas encore versé le salaire des chauffeurs et même des vies personnelles. Ouais, c'est inadmissible. Non, comment si l'État même ne fait pas le chimique, comment les sociétés peuvent payer le chimique?
D'accord.
Enfin,
ok, merci beaucoup, Angelo, pour votre intervention. 91 36 63 75, c'est à travers ce numéro que vous pouvez nous appeler et rentrer en ligne. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, madame Essi.
Oui, on est obligé d'appeler parce qu'il y a des choses qui énervent, quoi. On est obligé. Et voilà. Je vais vous demander là-bas. On doit continuer à vivre dans les crises sur crise durant encore combien de temps? On fera notre développement quand? Mais c'est des prix par-ci, des machins, et puis des sommets, des pensées ruinantes, des conférences, tout ça là. C'est, pourquoi ça? On n'en a pas besoin, quoi. On veut le développement, on veut changer, on veut alterner, faire la démocratie, et être bien. Ces deux trucs-là, ça rend un peu plus développé et heureux, quoi. Là, tout ça, est-ce que c'est notre problème? Hein? Les jeunes qui sont arrivés en 2005, là, eux, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils vont continuer comme les anciens dans ces trucs-là. Est-ce que c'est notre problème, là, et tout ça, là? Hein? Il y a des choses qui énervent. Vous avez compris?
D'accord. Merci.
L'enfumage, et les prestiges, le pic de la tête, tout ça, là, on a. Merci.
D'accord. Oui, merci beaucoup, madame Essi, pour votre intervention. 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et entrer en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
Votre nom, c'est?
C'est Mawena.
Mawena.
Dadi
de Gomé, allez-y.
Et salut le plateau.
D'accord.
Ok, Pascal,
oui.
Permettez-moi de faire une suggestion.
D'accord.
Nous qui appelons chaque fois dans l'émission, et en vérité, c'est pas que chez Moussa ne va pas. Hein. En tout cas, moi, j'ai un petit boulot qui me fait mieux de ma famille. Mais c'est pas que je dis ça, c'est que quand je vois les autres sous à mes côtés, je vais me taire quoi. Donc on a l'impression que nos journalistes nous pensent comme nous, on se cache derrière nos micros et nos portables pour leur dire n'importe quoi. C'est pas comme on n'a pas un magicien, sinon on va trouver le petit ou pour m'appeler chaque fois. On appelle pour les choses changent pour les autres aussi, au moins. On trouve quelque chose pour que nous soyons en paix. C'est ce que nous faisons. Mais quand on voit que nous, on n'a pas rien à faire, bon, on a tout, bon, on nous cache derrière pour vous insulter ou bien vous dire n'importe quoi, c'est pas bien.
Oui, non, mais M. Mona.
Oui.
Je ne sais pas trop là où vous voulez en venir.
Ok. Bon, pour l'émission. Moi, je dis que pour l'AES, là.
Oui.
Si Togo doit rentrer, c'est normal. Parce que nous sommes dans une dictature militaire depuis 1963. C'est une dictature militaire dans laquelle nous sommes. Nous ne nous voulons pas la face. D'ailleurs, on fait tout détruire dans ce pays, quoi. C'est l'hypocrisie là qui détruit ce pays. On voit les choses comme ça, mais on dit le contraire. Dans le rapport là, les journalistes nous disent que ça là c'est bien, ce qu'on a donné le note là, en tout cas c'est bon. Que tout va bien, c'est normal. Alors que tout le monde voit la différence, la réalité par rapport à ce rapport, il y a une grande différence. Ça aussi, il y a des gens, des certains journalistes qui confirment ça. Donc c'est que on doit sortir de l'hypocrisie dans ce pays, sinon ça ne va pas aller. Bonjour, bonne émission.
D'accord, bonne journée, c'est toi, monsieur Mawena. Je ne sais pas si vous nous avez suivi quand même, hein, parce que au-delà de tout, nous n'avons rien dit quand même de cela. Personne n'a dit sur ce plateau que c'est juste une analyse que chacun de nous a fait, hein, ici, à propos à l'heure de l'indice, à l'heure de développement humain. Allô?
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va.
Votre nom, c'est?
Oui, Erwin.
Hervé 2.
Vapocito.
Vapocito, allez-y Hervé.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les félicitations pour l'émission.
D'accord.
Et un très bonjour à M. Salahoui Soukri.
D'accord, merci beaucoup.
Tout d'abord, merci Roberto, je vous remercie tout le temps, merci pour le travail qui fait aussi.
Merci.
Et dire aux auditeurs que c'est le courage. Hein. Tout ce qui se passe, ce n'est pas un journaliste qui a là-bas, c'est ça. Les journalistes sont là pour les analyser aussi, ils savent que ça ne va pas dans le pays. Et nous tous aussi, on est au courant que ça ne va pas. Donc, ce n'est pas un journaliste qui a là-bas de tout ça. Là.
Merci beaucoup Hervé. Je pense que Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission de ce jeudi 91 36 63 75. Dernier auditeur qui doit entrer en ligne incessamment. Allô. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, vous.
Ça va aussi. S'il vous plaît, diminuez le volume de votre poste à côté de vous.
Une minute.
Allô?
C'est bon?
Oui, votre nom c'est?
Aliou.
Pardon?
Aliou Adido Gomez.
Aliou, ah ok, depuis Adido Gomez, allez-y.
Comment vous allez?
Ça va aussi, chez vous?
Je voudrais une chose. Tout à l'heure, en parlant, je vous ai suivi. Quand, parmi vous, vous qui êtes là-bas, je vous remercie beaucoup. Vous parlez, vous dites la vérité. Et il y a certains journalistes. C'est comme, par exemple, ils sont dans un autre pays, et leur salaire, combien on les paie. Ils disent, regarde, est-ce que 150 millions pour tous les journalistes de ce pays? Et quand une firme vient maintenant, c'est comme, par exemple, lui, il donne, on parle du Togo, il parle de la France, il parle de l'Amérique.
Oui, mais monsieur Aliou.
Par exemple, il est au ciel.
Monsieur Aliou.
C'est pas bien.
Allô, monsieur Aliou.
C'est bon, ce que je voudrais vous dire.
D'accord, sinon, Firmé n'est pas sur le plateau ici. Je pense que M. Aliou, c'est le dernier auditeur hein, pour cette émission à l'heure de ce jour. Et donc, nous allons revenir alors en plateau hein, pour faire un dernier tour de table et clôturer rapidement. Alors, docteur Benton, vous avez écouté nos compatriotes, ils se sont exprimés aussi, puisque c'est aussi le principe de notre émission. Ils se sont exprimés, ils ont donné leur point de vue sur un certain nombre de sujets débattus ici au Club de la Presse. Et quelle est votre réaction par rapport à tout?
Heureusement, je commence avec M. Aliou Dadido Gomé. Ce qu'il voudrait dire, c'est que, du moins, de cette émission de ce jeudi, l'analyse a été plus ou moins logique pour lui. Hein, et qu'il voudrait aussi dire qu'il y a certains, lorsqu'ils sont dans ces émissions, ils ne disent pas les choses telles qu'elles sont. Et je salue également ça, parce que nous sommes ici, ce n'est pas pour nous embellir les choses ou bien pour critiquer les autres. Et c'est la posture de la nouvelle vision. Nous sommes là pour dire ce qui ne va pas et aussi faire des propositions s'il le faut. Et donc, de toutes les interventions que moi j'ai écoutées, je crois qu'ils ont jeté les fleurs aux journalistes togolais. Pour dire que oui, c'est vrai, et les gens jettent. Et puis si les journalistes n'ont pas le minimum qu'il faut, ce serait très difficile de pouvoir jouer pleinement leur rôle. Et justement, à travers ces émissions, je pense que les autorités, les décideurs écoutent et quelque chose sera fait. Nous le souhaitons. Et en tant que parti politique également, nous ménagerons pas d'efforts pour aller vers qui de droit, pour plaider leur cause, comme on sait le faire pour les enseignants, pour les médecins, pour les agriculteurs, pour nos membres dans les marchés, pour la diaspora concernant les leurs activités au port avec des taux hein, de taxation très élevés et tellement de choses que nous voulons défendre à travers notre politique des 3C.
D'accord. Magoula?
Ben, disons que il y a, je crois, l'auditeur Koufi qui se demandait mais comment est-ce que on pourrait penser que bon la CDA ne serait pas passée par Lomé. Je crois qu'il y a une petite confusion. On parlait plutôt de Diomaye Faye qui, dans sa tournée peut-être de remerciement ou de prise de contact, ne serait pas passé par Lomé. Et honnêtement, on le dit par rapport aux réalités qu'il y a dans nos sociétés. Vous savez, l'aîné, il est toujours là et il doit être respecté tel. Et donc, moi, j'ai estimé que vu la crise qu'il y a dans l'espace sous-régional et que par rapport au rôle que Fonya Zimbe joue depuis un moment, doublé de son statut de doyen, pour moi, je ne trouvais pas d'argument qui pouvait motiver le fait qu'il ait pu faire son agenda sans passer par Lomé avant d'aller à France. C'est ce que je pense. Et aujourd'hui, quand on les met ensemble, ben, est-ce que ça va donner quelque chose vu que déjà, la médiation qui a démarré depuis presque 2 ans déjà, mais aujourd'hui, on voit que les gens se mettent plutôt en confédération. Est-ce qu'une médiation encore aujourd'hui peut changer quelque chose de la donne? C'était un peu l'analyse dans laquelle on s'était. Mais quand cela ne tienne, la sagesse est un gros arbre comme ça et personne ne pourrait
l'embrasser tout seul.
C'est des échanges, c'est des interactions entre nous et nos concitoyens et tous les apports sont les bienvenus.
D'accord, merci beaucoup Magloire. Ambroise.
Oui, d'abord, j'ai constaté, j'ai l'impression que certains confrères viennent mettre le feu ici, nous on en subit les conséquences. Parce qu'on en a parlé depuis mai, et la dernière fois c'était et l'autre là, Abbas Issaka, qui a aussi mis un feu ici, et nous on est venu subir. C'est leur point de vue, c'est des journalistes, c'est leur analyse à eux, nous aussi nous avons les nôtres. Mais je dis par rapport à cette histoire de... Moi je suis un président élu démocratiquement, n'est pas obligé de venir visiter le Togo. Je suis désolé, il a fait une tournée, je parle de Diomaye Faye, il n'est pas obligé. Parce que seuls, les brebis de même poilu, se s'assemblent. Mais vous n'êtes pas élu démocratiquement. Eux, ils ont élu, lui, il est élu démocratiquement. Vous voulez qu'ils viennent faire quoi ici? Il faudrait qu'on soit clair là. C'est-à-dire que ceux qui font du cinéma, moi je ne suis pas dans le cinéma, encore moins dans le cirque. C'est-à-dire que Diomaye Faye, vous voulez qu'il fasse quoi? Moi j'ai reproché le fait.
Ouattara aussi fait son troisième mandat.
Ça c'est Ouattara. Ici nous on peut vous connaître. C'est-à-dire que comment trouver un canevas pour que nous aussi on rentre dans la démocratie, dans le changement au sommet à la tête du pouvoir, dans l'alternance. C'est ce que le peuple togolais veut.
D'accord.
Donc Diomaye Faye, le fait d'aller à Paris, on me dit que c'est la diplomatie, comme tu le dis, c'est bien. Mais je me dis que les gens n'ont pas, sur les réseaux, les gens n'ont pas apprécié ça. En attendant d'aller là-bas, là, il a bien fait de faire une tournée. Contrairement à ceux-là qui vont d'abord en France avant de venir visiter leurs frères. Lui, il a fait ça au moins. Mais le fait d'aller là-bas même, bon, peut-être on me dira qu'il y a un sommet. Il a profité pour aller saluer le président. Et donc, moi, je suis d'accord avec certains auditeurs sur ce plan-là. Mais je me dis que s'il n'est pas venu ici, c'est à raison.
D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, docteur Kodovi Obenton, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin pour clôturer cette émission.
Bon, je dis d'abord merci à vous tous présents ici. Merci à la presse togolaise, aux journalistes togolais pour tous les efforts que vous ne cessez de déployer pour le développement de notre pays. Un développement qui, selon nous, doit passer par une éducation objective basée sur les valeurs innées, les valeurs essentielles à notre démocratie, à notre évolution. Et merci à vous. Et merci à tous les auditeurs qui prennent la charge d'appeler, d'apporter également leur
contribution
à ces genres d'émissions qui éclairent le peuple togolais. Et merci à tous les membres de la Nouvelle Vision et à toute la jeunesse qui est toujours très sereine derrière le mouvement que nous avons, derrière la finalité que nous avons. Et je vous rassure qu'avec la Nouvelle Vision, le Togo de rêve est prometteur.
D'accord, le Togo de rêve est prometteur avec la Nouvelle Vision. Merci beaucoup, docteur Kodovi Obenton. Vous êtes, je le rappelle, vous êtes alors président du parti politique La Nouvelle Vision. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'être passé chez nous. Alors, merci à tous qui nous avez suivis. Merci à Ambroise Kondo, Magloire Kenviteko.
Merci
à toi.
Merci.
Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci parce que nous sommes à la fin de cette émission. Michel Tomega a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.